Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La représentation du HCR au Burundi lance un plan de réponse pour le retour massif des réfugiés burundais. 300 000 sont déjà rentrés au pays depuis janvier dernier. La désescalade au Moyen-Orient des attaques israélo-américaines sur l'Iran risque d'aggraver la pénurie persistante du carburant au Burundi. Vous entendrez l'analyse du directeur national de l'organisation PARSEM. Le viol sur mineurs prend une ampleur inquiétante en Ngozi, avec 5 cas confirmés depuis le mois de janvier. L'alerte est donnée par la fédération engagée dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB. Voilà pour le sommaire. Plus de 82 millions de dollars américains sont à collecter auprès des partenaires du Burundi pour un rapatriement digne de plus de 100 000 Burundais se trouvant dans les camps en Tanzanie et dans d'autres pays d'asile. Précision ce lundi lors du lancement officiel et signature d'un plan de réponse pour le retour massif de ces Burundais. La représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, Brigitte Mukanga Eno, a en outre précisé qu'actuellement, 8 000 Burundais sont accueillis au lieu de 3 000 convenus lors de la dernière réunion tripartite Burundi-HCR-Tanzanie. Mireille Kanyang.
Lors de ces cérémonies de lancement officiel et signature du plan de réponse au retour massif des réfugiés burundais en provenance de la Tanzanie et d'autres pays d'asile, Mr. Bimenyimana, directeur général du rapatriement, a précisé que plus de 82 millions de dollars sur le court terme sont nécessaires pour rapatrier, réinstaller et réintégrer ces Burundais. Actuellement, 8 000 Burundais de retour au pays sont accueillis chaque semaine, contrairement aux 3 000 venu lors de la dernière tripartite, selon Leonidas Ndaluzaniye, ministre burundais de l'Intérieur.
Le présent plan de réponse est motivé par le fait que les rapatriés cumulés en provenance de la Tanzanie a dépassé 8 000 rapatriés par semaine, contrairement à la décision de la commission tripartite qui se limitait au maximum de 3 000 rapatriés par semaine depuis décembre 2025. Cela constitue un lourd défi et une charge opérationnelle sur l'ensemble des acteurs.
Jusqu'ici, a déclaré Brigitte Mukanga Eno, représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR au Burundi, 37 000 Burundais sont retournés dès janvier de cette année. Elle a insisté sur un accompagnement des rapatriés.
Depuis la crise qui avait mené plus d'un demi-million de Burundais dans les pays limitrophes, à ce jour, plus de 300 000 sont déjà de retour, ce qui est une très bonne chose. Et pour 2026 seulement, entre janvier et maintenant, ça fait déjà 37 000 personnes qui sont de retour. Le rapatriement doit s'accompagner d'une réintégration solide et qui puisse réussir pour éviter que les rapatriés ne reprennent le chemin de l'asile ou vers d'autres pays, tout simplement par manque de réintégration dans les zones de retour.
Lors de cette réunion, l'ONU a informé que fin de ce mois, le camp de Nduta sera définitivement fermé, alors que celui de Nyarugusu, toujours en Tanzanie, le sera fin juin. Mais une tripartite Burundi-HCR-Tanzanie est imminente afin de se convenir sur le rapatriement digne de plus de 100 000 réfugiés burundais encore sur le sol tanzanien.
La construction du chemin de fer Uvinza-Musongati et le domaine énergétique sont la priorité du gouvernement parmi les projets qui seront financés par la Banque mondiale qui compte intervenir dans six domaines. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le ministre des Finances lors des consultations pour le cadre de partenariat pays avec cette institution pour la période 2026-2031. Ces consultations ont été lancées par le ministre burundais. Les précisions du ministre des Finances, Alain Ndikoumane.
Il y a ce qu'on appelle les cycles de financement. On vient de terminer en 2025 le cycle de financement, ce qu'on appelle IDA 20. On vient de commencer l'IDA 21. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau cycle de financement, que le groupe de la Banque mondiale et le gouvernement s'assoient ensemble pour se convenir sur les priorités du gouvernement pour les 5 prochaines années. Je vais dire 2026-2031. Donc il était question aujourd'hui d'échanger sur les grands axes ou les différentes priorités du gouvernement sur cette période parce qu'il y a une enveloppe enveloppe additionnelle de plus de 400 millions de dollars. Donc il était question de signifier à la Banque mondiale les priorités du gouvernement. Donc on a arrêté 6, en commençant par le chemin de fer. On a besoin d'un financement de la Banque mondiale parce que c'est un projet qui a été réalisé avec le financement jusqu'ici de la Banque africaine de développement et les ressources nationales. Le deuxième axe, c'est l'appui à l'industrie extractive. Comme vous le savez, on a pas mal de ressources minières qui ont besoin d'être exploitées. Je crois que le développement de ce secteur pourra avoir un impact sur l'économie burundaise. Le troisième axe, c'est l'agriculture. Comme vous le savez, 85% des ménages burundais sont des ménages agricoles. Donc sans le soutien de ce secteur, on risque de ne pas avoir les résultats attendus. L'un des projets qu'on a mis en avant, c'est le projet de construction du barrage d'irrigation de Kadjeke qui sera couplé avec le barrage hydroélectrique. Le quatrième axe, c'est l'énergie. L'énergie qui est l'un des moteurs de la croissance. Nous avons fait des progrès, certes, mais on a besoin d'avoir d'autres sources d'énergie. Le cinquième axe, c'est l'axe qui va dans le sens de développement du capital humain. Donc on a besoin de développer de ce secteur au niveau de la santé, au niveau de l'enseignement professionnel, parce qu'on aura besoin des ressources humaines bien éduquées et en bonne santé.
La désescalade au Moyen-Orient des attaques israélo-américaines sur l'Iran risque d'entraîner la fermeture d'environ 48% des voies maritimes par lesquelles transite le carburant, avec des conséquences au Burundi, surtout qu'il existe déjà une pénurie de carburant. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et le Changement des Mentalités, demande au gouvernement de rassurer la population sur les mesures qui pourront être prises pour protéger le pays en matière d'approvisionnement en carburant. Il rappelle que lors des conflits survenus les années 91, le gouvernement de l'époque avait pris des décisions qui avaient permis de maintenir la disponibilité du carburant. On l'écoute.
PARSEM demande au gouvernement, en insistance, de communiquer à la nation les stratégies qu'il va prendre pour se prémunir contre les effets néfastes liés à la guerre, à la crise du Golfe actuellement, surtout que la guerre qui a éclaté entre l'Iran et les États-Unis et l'Israël va provoquer la fermeture du Strait d'Ormuz, là où passe environ 40% des marchandises, y compris certains bateaux transportant le pétrole. La première crise du Golfe en 1991 qui avait été directe sur le prix du carburant ici dans notre pays. Le gouvernement de l'époque avait pris des stratégies pour amortir le choc lié à cette perturbation externe. Actuellement, le Burundi a des problèmes qui lui sont d'abord spécifiques. Pas de stock stratégique, pénurie et mauvaise gestion des devises, la perte de confiance des fournisseurs vis-à-vis de notre capacité d'honorer nos engagements par rapport au paiement du pétrole fourni, donc l'enclavement, le problème du choix des entreprises assurant l'approvisionnement du pays en carburant, leur logistique, et tout cela nous était déjà spécifique. Alors on se dit, si il y a le problème stratégique au niveau mondial qui va provoquer certainement l'augmentation du cours du pétrole ou bien le retard dans le transport et de ce produit stratégique, est-ce que le gouvernement va s'en sortir?
Faustin Dikoumana, il est directeur national de l'organisation PARSEM, puisqu'on en parle. Deux navires ont été attaqués dimanche dans le détroit d'Ormuz, ce qu'ont déclaré les agences de sécurité maritime, alors que l'Iran poursuivait pour la deuxième journée consécutive ses frappes en réponse aux raids aériens américains et israéliens. Le détroit d'Ormuz est une voie navigable stratégique par laquelle transite près d'un quart des approvisionnements mondiaux en pétrole par voie maritime et une quantité importante de marchandises à destination et en provenance des ports du Golfe.
Captez Isanganilo, écoutez la différence.
Cinq fillettes de moins de 10 ans de la localité d'Ongozi en Provence, Boutagnerera, ont été violées depuis janvier cette année 2026. D'après Jean Bosco, Naira Guigé, représentant la fédération FENADEB, engagée dans le domaine de l'enfance au Burundi. C'est après l'enlèvement et le viol vendredi d'une fillette de 9 ans au quartier Rubouillé, en commune Ngozi, puis retrouvée dans le marais de Vierwa dans un état critique. Le représentant de la FENADEB, Ngozi, demande la combinaison des efforts de la part des différentes institutions publiques et privées pour arrêter ce phénomène. Apollinaire Monzagara.
Une fillette de 9 ans qui était à la maison a été victime d'un enlèvement par des personnes jusqu'ici non encore identifiées. C'était ce jeudi passé au quartier Loubouyé, en ville d'Ongouzi, vers 14h. Ses parents l'ont cherchée, mais en vain. Le lendemain, cette innocente a été retrouvée au marais de Vieillegua, violée. Elle avait perdu même la connaissance, selon la police. Il y a environ 2 semaines, un viol similaire avait été enregistré. La victime du viol a été aussi retrouvée à Vieillegua dans le même marais, en état d'ivresse exagérée. Selon un des voisins de la famille de cet enfant, les auteurs de ce forfait donnent d'abord des boissons très alcoolisées à ces fillettes avant de commettre le viol. D'après Jean Bosco Ndayiragije, la FENADEB Butanyerera a déjà rapporté depuis janvier 5 cas de viol commis aux jeunes filles mineures dans la localité de l'ancienne province Ngozi. Il demande la conjugaison des efforts de la part de l'administration, police, justice et toute la population de Butanyerera en vue de faire face à cette situation. Jean Bosco Ndayiragije s'inscrit en faux contre certains chefs de colline qui dissimulent des cas pareils ou cherchent à régler à l'amiable des cas de viol. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isangani.
L'administrateur communal de Lumonge a déclaré que désormais les postes de responsabilité scolaire dans sa circonscription seront attribués prioritairement aux enseignants dont les élèves se seront classés premiers dans les examens externes. Augustin Minani a fait cette annonce dimanche lors d'une réunion à Bujumbura avec les natifs et les opérateurs économiques œuvrant dans cette commune. Il fait allusion ici à la récente nomination du chef de département communal de l'éducation en remplacement de l'ancienne désignée à d'autres fonctions. Pour lui, on donne ce qu'on a et même les responsables zonaux de ce département ont été concernés. Jean-Pierre Misako.
C'est lors de la réunion extraordinaire du conseil communal de Rumonge que Atungimana Jean a été approuvé comme nouveau chef de département communal de l'éducation de Rumonge en remplacement de Benigne Ninunze, nommé à d'autres fonctions. Selon Augustin Minani, administrateur communal de Rumonge, seul le critère avoir été premier au concours national édition 2025 dans toute la commune de Lumonge a guidé ce choix et ainsi le directeur de l'école fondamentale de Lumonge 1 sous convention catholique, première au classement communal, a mérité ce poste. L'administrateur communal de Lumonge explique que si tel n'était pas le cas, il n'y aurait pas d'amélioration dans ce secteur, puisque selon lui, le mérite n'aurait pas primé. Des chefs de département zonaux de l'éducation ont été également approuvés et c'est aussi des directeurs d'école qui se sont distingués dans chaque zone dans la même logique de mérite. Selon l'administrateur communal de Rumonge, cette école fondamentale de Rumonge 1, dont le directeur vient d'être nommé chef du département communal de l'éducation de Rumonge, avait présenté 42 candidats au concours national édition 2025 et tous ont réussi avec 29 admis à l'internat. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro.
Du sport à présent. 17 buts ont été marqués lors de la 23e journée du championnat de première division de football, Premier League. Le match le plus prolifique en but a opposé l'équipe de Vitalo ce dimanche au stade Inouari, où cette formation a battu Garage Express sur le score de 8-1. Au basketball, les équipes d'Aigle Noir et de Kern ont décroché ce dimanche leur qualification pour participer au championnat de première division de cette année, l'Amstel Basketball League. L'actualité sportive avec Jean-Marie Vianney Gendakoumana.
Le championnat national de football, baptisé Primus League, était à sa 23e journée ce week-end. Le match d'ouverture de cette journée s'est disputé vendredi au stade Inouari, où la formation Interstar et Burundi Sport Dynamique se sont quittés sur le score vierge de 0 partout. Toujours au stade Inouari, samedi, l'équipe Visio FC s'est imposée face à Kansa United sur la plus petite démarche d'Embi à 0. Dans les autres rencontres disputées samedi au stade Ingoma de la province Gitega, les équipes de Musongati et Aigle Noir se sont neutralisées sur le score vierge de 0 partout. Au stade Urukundo de Ngozi, devant son public, Ngozi City a battu la formation militaire de Muzinga sur le score de 2-1. Dimanche, sur cette même pelouse de Urukundo, Messager Ngozi a largement dominé Beige Green en s'imposant 4-0. Au stade Mucho de Muyinga, Olympique Star qui recevait la formation policier de Rukinzo s'est également contenté des matchs nuls 2-0 partout. L'autre rencontre, sa réalisation, est celle qui a opposé Bumamuru et Flambeau du Centre au stade Urunani do Buganda ce dimanche. Le match phare de cette 23e journée est le plus riche en buts. C'est joué ce dimanche au stade Inhuari où l'équipe Vitaro a écrasé Grage Express sur le score fleuve de 8-1. Au classement provisoire, l'équipe Aigle Noire, toujours invaincue depuis le début de la saison, vient en tête avec 59 points. Flambeau du Centre occupe la deuxième place avec 46 points, au moment où Bumamuru est troisième avec 44 points, à l'égalité avec Musongati FC 4e. La lanterne rouge l'Est Beige Green avec seulement 7 points. Au basketball, à l'issue des matchs de qualification disputés ce dimanche au télé des départements des sports, les équipes Aigle Noire et Kerné ont décroché leur billet pour la participation au championnat national de cette année Amster Basket League. Aigle Noire a battu les méchants sur le score de 86-68, tandis que Kerné s'est imposé face à les Hippogitega 94-64. Toujours au basketball, samedi, une rencontre de garants a marqué la signature d'un partenariat entre la Fédération burundaise de basketball et la Blaroudi sponsor de la compétition de cette année. Chez les hommes, Urunani a pris le dessus sur Dynamo 70-65, au moment où chez les dames, Gladiators a battu les Hippos 53-50.
En bref, en actualité sous-régionale, et ce sera pour boucler ce journal. Goma, symbole vivant de la résilience et de la culture dans l'Est de la République démocratique du Congo, sera privé cette année de son festival emblématique. Face à l'insécurité persistante dans la région, le festival Amani est contraint de quitter sa ville d'origine. Et pour sa 11e édition, l'événement se tiendra exceptionnellement à Lubumbashi. Ce sera du 10 au 12 avril 2026. Pour Augustin Mossangé, directeur du foyer culturel de Goma, la délocalisation était inévitable car certains artistes devraient annuler leur participation, puisque ne pouvant pas se déplacer pour venir dans une zone qui n'est pas sous contrôle de Kinshasa. Et l'Allemand Maurice Kretschy a remporté ce dimanche le Tour du Rwanda au terme d'une 8e étape contrôlée et d'une semaine de course maîtrisée par son équipe NSN Development. A noter également la belle performance de l'Éthiopien Amaniel Desta, 20 ans, qui s'est imposé comme la révélation africaine de ce Tour cycliste du Rwanda 2026 avec une belle 4e place au général. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Yeah.